VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 16 janvier 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, l'opposition a suspendu ses manifestations contre un projet de troisième mandat prêté au président Alpha Condé après 3 jours de protestations qui ont fait au moins 3 morts.
En République démocratique du Congo, l'ONU balaie toute balkanisation du géant d'Afrique où la peur d'un morcellement de l'unité nationale est de nouveau agitée par des responsables publics.
La Cour d'appel de Paris a fixé au 3 juillet sa décision sur la validité du non-lieu sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana, épisode déclencheur du génocide de 1994 au Rwanda.
Ici à Washington, le dossier d'accusation contre le président Donald Trump a été officiellement transmis mercredi au Sénat, où doit débuter mardi le procès en destitution du président américain.
Et le président Trump a signé un accord commercial qualifié d'historique avec la Chine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
La France est particulièrement préoccupée par les violences politiques en Guinée, où le projet de troisième mandat prêté au président Alpha Condé est très contesté. Paris appelle à l'apaisement, Ekabadou.
Nous sommes particulièrement soucieux de la situation en Guinée. Nous appelons à l'apaisement, a déclaré Jean-Yves Le Drian pendant une audition devant la Commission des affaires étrangères du Palais Bourbon. C'est la situation la plus sensible dans la région et l'engagement du président Alpha Condé à demander une réforme de la Constitution ne nous paraît pas être obligatoirement partagé ni par sa population ni par ses voisins, a-t-il souligné. L'opposition en Guinée est convaincue que le président Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, entend se représenter fin 2020, alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Monsieur Condé, 81 ans, a indiqué qu'il comptait soumettre aux Guinéens un projet de nouvelle constitution, même s'il ne s'est pas exprimé sur ses intentions personnelles. Depuis lundi, l'opposition a lancé appel à la mobilisation massive et illimitée. 3 personnes ont été tuées, 2 commissariats ont aussi été saccagés mardi à Pita, à 200 km de Conakry, la capitale.
Et ajoutons que l'opposition guinéenne a annoncé hier une suspension de ses manifestations pour, je cite, « procéder dans le calme à l'enterrement de nos victimes et permettre aux Guinéens de se réapprovisionner en produits de consommation ».
Guinée toujours, la campagne pour les législatives du 16 février va débuter jeudi à minuit jusqu'au 14 février selon un décret présidentiel lu mercredi soir sur les médias d'État. Estimant qu'il s'agit d'une manœuvre du président Condé pour renforcer son pouvoir, l'opposition a promis de boycotter ce scrutin et d'en empêcher la tenue à cause des divergences avec le pouvoir sur son organisation.
Les Nations Unies ont balayé mercredi toute balkanisation de la République démocratique du Congo, où la peur d'un morcellement de l'unité nationale est de nouveau agitée par des responsables publics. Le Congo, dans ses frontières héritées de la colonisation, personne ne le conteste, a déclaré la patronne de la mission des Nations Unies au Congo, Leila Zerougui. La rhétorique d'une balkanisation de la RDC, orchestrée par le Rwanda, est très présente ces jours-ci dans le débat public, avec la persistance des violences dans l'est du pays. L'opposant Martin Fayoulou a convoqué pour vendredi une marche à Kinshasa contre la balkanisation et les violences dans l'Est, marche interdite par les autorités.
Concernant toujours la RDC, 14 personnes ont été tuées dans 2 attaques survenues dans l'Ituri et le Nord Kivu. Précision d'Eddy Isango.
5 policiers et 1 civil ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans l'attaque d'un commissariat dans la province de l'Ituri. Des hommes armés ont attaqué les commissariats de la police d'Irumu Centre, a déclaré un membre de la société civile. Le porte-parole de l'armée dans la région a confirmé cette attaque. Plus au sud, dans la province voisine du Nord Kivu, 8 personnes ont été tuées à l'arme blanche à Bukoma, dans les territoires des Rutshuru. Un habitant, Eugène Rwandais, précise que les assaillants ont d'abord tué un agent de l'État avec son épouse et leurs 5 enfants avant d'aller exécuter un voisin. Il pointe du doigt les rebelles Hutu-Rwandais des FDLR présents dans la zone. La rébellion des forces démocratiques pour la libération du Rwanda est actuellement pourchassée par l'armée congolaise qui a annoncé avoir tué son chef en septembre dernier. Cette semaine, Kigali a annoncé que les jours des rebelles FDLR sont comptés.
Et s'agissant du Rwanda même, la Cour d'appel de Paris a fixé hier au 3 juillet sa décision sur la validité d'un non-lieu qui a conclu 2 décennies d'enquête sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana, épisode déclencheur du génocide de 1994 selon des avocats. Les familles des victimes avaient fait appel de la décision des juges antiterroristes rendue le 21 décembre 2018 dans l'espoir d'obtenir le procès en France de 9 membres ou anciens membres de l'entourage de l'actuel président rwandais Paul Kagame.
L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont esquissé mercredi un compromis au sujet d'un immense barrage sur le Nil qui suscite des tensions régionales depuis 9 ans. Ils se sont donné rendez-vous fin janvier à Washington pour surmonter les dernières divergences et finaliser un accord. Début novembre, sous la houlette des États-Unis et de la Banque mondiale, les 3 pays africains avaient fixé à ce mercredi la date butoir pour aboutir à un accord sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance voulu par Addis Abeba.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, la Chambre des représentants a transmis mercredi au Sénat les 2 articles de mise en accusation de Donald Trump dans le cadre de la procédure d'impeachment qui vise le président américain. Elle ouvre ainsi la voie au procès de M. Trump devant la Chambre haute. Le point avec Jean-Roger Bion.
La Chambre basse, dominée par les démocrates, a approuvé cette démarche par 228 voix contre 193, reflet quasi fidèle du rapport de force entre démocrates et républicains. Le vote a également entériné la nomination des 7 élus démocrates constituant l'équipe d'accusation pendant le procès au Sénat. Adam Schiff, qui préside la commission du renseignement à la Chambre et a occupé pendant 6 ans les fonctions de procureur fédéral à Los Angeles, fera fonction de procureur en chef, a annoncé mercredi Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre basse du Congrès. Le président Donald Trump a multiplié mercredi les pics à l'encontre de ses adversaires et d'une procédure qu'il ne cesse de qualifier de bidon. La porte-parole de la Maison-Blanche, Stephanie Grisham, a déclaré que Donald Trump s'attendait à être totalement disculpé. Le président Trump n'a rien fait de mal, a-t-elle dit dans un communiqué. Donald Trump a été mis en accusation le 18 décembre dernier pour abus de pouvoir et entrave à l'enquête du Congrès. Le président américain est accusé d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle ouvre une enquête sur Joe Biden, un des favoris démocrates de la présidentielle de novembre prochain, et son fils Hunter. Selon le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, le procès en destitution devrait véritablement débuter mardi prochain, le temps de procéder à des formalités préliminaires comme la prestation de serment des sénateurs.
Toujours à Washington, le président Donald Trump a signé mercredi un accord commercial préliminaire avec le vice-premier ministre chinois Liu He. Accord qu'il a qualifié d'étape historique qui n'avait jamais été franchie pour équilibrer le commerce entre les 2 grandes puissances économiques. Et dans une lettre adressée à M. Trump, son homologue chinois Xi Jinping a salué un accord bon pour le monde entier. La Chine s'est engagée à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des 2 prochaines années afin de réduire le déséquilibre commercial, grande revendication de la Maison-Blanche.
L'accord contient également des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle et aux conditions de transfert de technologies, autres grandes exigences des États-Unis. Le président Trump a cependant indiqué que les droits frappant actuellement plus de 370 milliards de dollars de produits chinois seraient maintenus tant que la phase 2 de l'accord ne serait pas signée.
En Russie, le président Vladimir Poutine a désigné hier comme nouveau premier ministre le patron du fisc, Mikhail Mishustin, inconnu du grand public. Le point avec Irénée Herman Umbo.
Vladimir Poutine a présenté la candidature de Mikhail Mishustin à la Douma. La chambre basse du Parlement russe doit maintenant valider cette nomination. Elle fait suite à l'annonce surprise de la démission de Dmitri Medvedev, chef du gouvernement depuis près de 8 ans, dans la foulée d'un discours du président russe annonçant des réformes constitutionnelles. Monsieur Poutine n'a pas révélé le contenu des futures réformes, ni quel avenir pour Medvedev, qui lui a été extrêmement fidèle. Monsieur Mishustin, son remplaçant, était à la tête du service fédéral des impôts depuis 2010. Il est aussi une nomination surprise et a la réputation d'être un haut fonctionnaire efficace.
Pour le moment, il n'a fait aucune déclaration. Le Kremlin a diffusé des photos de l'intéressé en tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Lors de ses mandats de 2000 à 2008, le président russe avait déjà nommé à la tête du gouvernement des responsables peu connus du public, comme Mikhail Fradkov en 2004, qui était à l'époque ambassadeur auprès de l'Union européenne.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
La production de caoutchouc en Côte d'Ivoire a augmenté de 25% en 2019 pour atteindre 780 000 tonnes. Elle devrait atteindre 850 000 tonnes cette année. La hausse se justifie par la prolifération de nouvelles plantations. À la recherche de revenus plus stables, les agriculteurs passent du cacao au caoutchouc. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur de caoutchouc naturel d'Afrique et le septième producteur mondial. La demande de caoutchouc ivoirien est très forte en Chine, en Thaïlande, en Malaisie, en Europe et en Amérique. Ethiopian Airlines commencera à construire un nouvel aéroport de 5 milliards de dollars au cours des 6 prochains mois. L'aéroport sera construit à Bishoftu, une ville à 39 km d'Addis Abeba. L'infrastructure aura la capacité de traiter 100 millions de passagers par an, alors que l'aéroport international de Bole à Addis Abeba a une capacité d'accueil d'environ 19 millions de passagers par an. On ne sait pas encore comment la construction sera financée ni qui construira le nouvel aéroport. Pour terminer, le Kenya décide de ne plus fixer de déficit budgétaire important dépassant 6% du PIB et de se concentrer sur la collecte de fonds grâce à la collecte de revenus et à des emprunts minimaux. Le pays continue de poursuivre sa politique d'assainissement budgétaire. Le gouvernement du président Uhuru Kenyatta a été critiqué pour avoir endetté lourdement le pays ces dernières années. Il a été contraint d'augmenter son plafond d'emprunt l'année dernière après avoir dépassé le niveau fixé.
Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En football, la CAN ramenée au mois de janvier au Cameroun.
Oui, c'est un retour à la situation qui prévalait avant la dernière édition de la compétition en Égypte. La CAN se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février, a indiqué hier la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, qui ajoute date modifiée pour des raisons météorologiques à la demande du Cameroun. Historiquement, la période normale de la compétition était en janvier et février, avant que le président de la Confédération africaine de football, Amat Amat, à peine élu en 2017, ne change cette donne à la surprise générale. Il avait alors annoncé que la compétition phare du football africain se déroulerait dès l'édition 2019 en Égypte l'été et non plus en début d'année. L'annonce du mercredi est donc un revirement.
Après les dates de la CAN 2021, on connaît celle du tirage au sort du CHAN 2020.
Oui, selon Africa Top Sport, la cérémonie a lieu le 17 février prochain à Yaoundé. On connaîtra donc la composition des 4 groupes de la phase finale. Le CHAN 2020 se tient du 4 au 25 avril dans les villes de Yaoundé, Douala, Bouya et Limbé. Par ailleurs, l'hymne officiel de la compétition est également dévoilé. Il s'agit de « We are all champions » de Gilmari Ihims.
L'Albanie et le Kosovo veulent créer une Coupe Mère Teresa.
Oui, une Coupe Mère Teresa dans laquelle s'affronteraient les clubs des 3 premières divisions des 2 pays, a déclaré hier un porte-parole de la Fédération albanaise de football. Les fédérations albanaises et kosovares ont envoyé une lettre à l'UEFA et à la FIFA pour proposer l'organisation conjointe de la Coupe Mère Teresa. L'Albanie et le Kosovo souhaiteraient que le vainqueur de ce trophée obtienne une qualification pour la Ligue Europa, la petite Coupe d'Europe de l'UEFA. Mère Teresa est une religieuse canonisée en 2016, née en 1910 dans une famille albanaise de Skopje, alors sous tutelle ottomane, et décédée en 1997. Et pour terminer, Idrissa, quelques nouvelles de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Philadelphie et Brooklyn, 117 à 106. Toronto et Oklahoma City, 130 à 121. Denver et Charlotte, 100 à 86. Portland et Houston, 117 à 107. Dallas et Sacramento, 127 à 123. Et pour le match LA Lakers et Orlando, rendez-vous à 7h, temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Centrafrique, la cour criminelle du tribunal de Bangui a ouvert le procès de Crépin Okanam et Kevin Béré-Béré, deux chefs de milice, ainsi que 29 autres de leurs hommes, pour leur responsabilité dans les violences qui ont entraîné la mort de nombreux civils et de 10 casques bleus. C'était en 2017 dans le sud-est du pays. Le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme se félicite de la tenue de ce procès qui, selon lui, doit s'étendre à tous les auteurs de crimes sans distinction. Écoutons au micro de Félix Yepassis Zembrou, Joseph Bendoumi, joint à Bangui.
Depuis 2017, 2018, 2019, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme suit avec une grande attention les procès des cours criminelles de Bangui et de Bois qui se sont succédés. Et là, au moment où on s'entretient, la cour criminelle de Bangui est en train de se tenir pour examiner les grands dossiers concernant les graves violations des droits de l'homme en République centrafricaine en lien avec la crise que connaît ce pays. Et donc, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme se félicite de la tenue de ce procès parce que dans sa vision et dans sa mission de lutter contre l'impunité, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme pense que lorsque les personnes mises en cause peuvent se retrouver devant la justice de leur pays et reconnaître ou pas reconnaître les faits de leur sort reproché, c'est une avancée significative dans la protection des droits humains, dans la défense des victimes et dans la réparation des dégâts causés sur des innocentes personnes.
Monsieur le Président, ce procès se tient justement dans un contexte où deux leaders des anti-Balaka, je veux citer Ngaï Sona et Hécatombe, se trouvent en ce moment à la haie, alors que des groupes armés continuent d'écumer l'arrière-pays. N'a-t-on pas l'impression d'une justice à deux niveaux, c'est-à-dire de deux poids, deux mesures?
Nous avons dit à son temps, et nous continuons de le clamer, que la justice devrait être plus équilibrée dans la manière de conduire le procès. C'est vrai que le peuple centrafricain ici a constaté que ce sont les responsables des anti-Balaka, Ngaï Sona, Edouard Hécatombe, qui se sont trouvés à la haine. Alors qu'au même moment, comme c'est le cas maintenant, à Abidjan, les hommes de l'UPC continuent de faire des dégâts. Dans beaucoup de zones de notre pays, je pense à Karabandoro, je pense à Batanapo, je pense à Bria, il y a encore des gens qui soit érigent des barrières illégales, raquettent les populations, puis l'économie du pays, suit à volonté, et ces personnes-là sont toujours là. Pour l'instant, ne sont pas recherchés pour être appréhendés. C'est la raison pour laquelle la Ligue centrafricaine des droits de l'homme crie à haute et intelligible de voix pour demander que la justice soit équitable pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui en train de semer la terreur en République centrafricaine.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le président français Emmanuel Macron a assuré que la lutte contre le terrorisme va désormais se concentrer sur le groupe État islamique au Grand Sahara. Ce groupe a été créé en 2015 par Abu Walid Adnan al-Sahraoui, ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance Al-Qaïda au Maghreb islamique, et membre du mouvement pour l'unicité de Dieu qui avait pris contrôle du Nord malien en 2012. Pour en parler, Eric Manirakidza a joint le journaliste écrivain et spécialiste du terrorisme dans le Sahel, Sédic Abba.
On parle de 500 personnes au départ, puisque une dizaine de mouvements étaient fédérés dans l'État islamique au Grand Sahara sous la direction de Abu Walid al-Sahraoui. Et très vite, ce mouvement a fait du recrutement local, a pris une grande ampleur, et c'est ce qui explique aujourd'hui la puissance militaire, parce que il n'y a pas qu'au Niger et au Mali, l'État islamique a fait des opérations aussi au Burkina Faso et dans toute la sous-région. Aujourd'hui, sur la zone des trois frontières qui concerne le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est le mouvement terroriste le plus puissant, à la fois par la capacité capacité, et aussi parce qu'il est important de comprendre que lorsque l'État islamique a été défait en Irak et en Syrie, un certain nombre de combattants sont revenus et se sont infiltrés par la Libye pour rejoindre l'État islamique au Grand Sahara. C'est cette expertise-là qui explique aujourd'hui les grandes opérations militaires qui sont dignes des armées aguerries qui sont portées par l'État islamique au Grand Sahara contre le Niger, contre le Mali, sur cette zone des trois frontières.
Et comment il parvient à se dissimuler avec toute la traque?
Dans la zone des trois frontières, il y a une partie très arborisée, c'est pas la forêt dense, mais il y a une partie dans laquelle les mouvements djihadistes ont trouvé un repère, ont trouvé une sorte de sanctuaire. À partir de là, ces mouvements-là, parce que cette partie, il faut le regretter, il faut le dire pour le regretter, échappe au contrôle des trois États. Les trois États, le Niger, le Mali et le Burkina, n'ont pas les capacités opérationnelles, administratives, policières et militaires pour contrôler cette partie-là. La forêt des Krafan du côté du Niger, du côté du Mali dans la zone de Meneka en Songo, et c'est là qu'ils sont implantés, qu'ils profitent de la faiblesse de ces États-là, de la faiblesse de leurs capacités. Une colonne qui attaque quand même le camp de Inatès et qui revient, elle ne passe pas inaperçue. Elle a parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Si on veut chercher les éléments de l'État islamique au Grand Sahara, ils ne sont pas dans la nature, ils ne sont pas cachés. Il faut avoir les moyens d'aller les chercher là où ils sont. Or, comme vous avez remarqué, aujourd'hui, c'est l'État islamique qui a l'initiative. C'est l'État islamique qui attaque les forces armées maliennes. C'est l'État islamique qui attaque les forces armées nigériennes. C'est l'État islamique qui attaque les forces armées burkinabées. Ce n'est pas ces forces qui vont attaquer l'État islamique dans son sanctuaire. Le sanctuaire existe, on le connaît. Maintenant, il faut avoir les capacités à la fois militaires et la décision politique pour aller les chercher dans leur nid. Ils ont un nid. Maintenant, il faut s'organiser pour aller les attaquer chez eux.
Vous parlez de la faiblesse des États, mais il y a Barkhane et aussi les Américains qui sont présents dans la région.
Les Américains, on ne connaît pas très bien leur agenda. Aujourd'hui, avec le sommet de Pau, ça a été officialisé. Ils apportent un appui aux forces françaises, un appui en logistique et un appui en renseignement. Mais par ailleurs, ils apportent aussi un appui en formation parce que les forces spéciales américaines forment les armées du Niger et du Mali. La force Barkhane lutte contre le terrorisme, mais elle a plus été accentuée dans le nord du Mali, dans la région de Kidane, autour de Tombouctou et autour de Gao, où ils ont une force de réaction rapide. Mais dans la zone des trois frontières, Barkhane n'est pas là. Elle a laissé cette partie de la zone des trois frontières aux armées nationales de ces trois pays.
C'était Sédic Abba, journaliste, écrivain et spécialiste du terrorisme dans Sahel.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la France et les pays du G5 Sahel veulent renforcer leur coopération militaire contre les attaques terroristes au Sahel. Les présidents de la région souhaitent aussi la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel, alors que Paris avait demandé une clarification lors du sommet de Pau face aux critiques sur la présence française au Sahel. Comment renforcer cette coopération militaire pour venir à bout des groupes armés? Comment restaurer la confiance sur la présence militaire étrangère dans le Sahel? Qu'est-ce qui alimente le sentiment anti-français dans cette région? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
En Mauritanie, le partage du fonds d'aide publique aux médias privés suscite colère et indignation. Une plainte a été déposée auprès de l'inspection générale d'État contre la commission de distribution de Nouakchott Mohamed Diop.
20 millions de guyas, environ 550 000 dollars américains, sont accordés chaque année aux médias privés. Une subvention de salaire, de formation et d'achat d'équipement. Mais cette fois, le nombre de bénéficiaires, 375 médias et 29 associations de presse, fait polémique.
Nous assistons réellement au recul de la presse écrite. Seuls 4 à 5 papiers hebdomadaires continuent de paraître pour les quotidiens. Il n'existe plus, excepté le journal Horizon, qui est la voix du gouvernement. De ce fait, nous doutons de l'exactitude du nombre.
Pour lever le doute, la commission de gestion et de distribution du fonds est invitée à dévoiler publiquement tout détail sur les bénéficiaires.
Nous avons demandé aux concernés de nous présenter un rapport écrit et complet qui implique tous les détails. S'ils refusent, nous porterons plainte auprès de l'inspection générale de l'État.
Une plainte pour conflit d'intérêts est déjà sur la table de l'IGE, inspection générale d'État. Elle pointe du doigt les membres de la commission de gestion et de distribution du fonds.
Ce que les gens contestent, c'est que certains membres de la commission parviennent à faire intégrer leurs propres médias pour les faire, en tout cas, accéder à ce fonds-là.
L'on craint même que le fonds ne devienne insignifiant en raison de la pléthore des bénéficiaires.
Aujourd'hui, on constate que beaucoup de médias ont été créés uniquement en perspective de ce fonds.
Nous avons essayé d'avoir la version de la commission de gestion et de distribution du fonds, mais jusque-là, nos tentatives sont restées vaines. Mohamed Diop, pour VOA Afrique, Nouakchott.
Abakar Moussa Kale, qui est paralysé depuis son enfance, rêvait d'être entraîneur de football, un sport qu'il ne peut pas malheureusement pratiquer. Alors, il a décidé de transmettre son rêve de jouer aux autres. Aujourd'hui, il dirige une école de football. Nesta Yamgoto est allé à sa rencontre à N'Djamena.
Abakar Moussa Kale prépare en détail la science d'entraînement de ce joueur. Le jeune coach de l'école de foot Eclipse Tangou note sur son calepin tout le chemin tactique à mettre en pratique cet après-midi.
Avant chaque séance d'entraînement, j'élabore mes plans à la maison et j'essaye de préparer les exercices qu'il faut faire et comment les faire.
Le football, une passion qui a son emprise sur lui depuis son tout petit âge. Son rêve était d'être footballeur. Mais à 3 ans, Abakar est atteint par la poliomyélite, une maladie qui lui fait perdre l'usage de ses jambes. Un moment difficile de sa vie, dont sa maman se souvient encore.
Il est tombé malade dès son jeune âge. Nous l'avions conduit dans tous les centres de santé recommandés pour le soin. Mais en vain, en fin de compte, lui-même s'est résigné. Aujourd'hui, je suis fier de le voir faire ce qui le passionne. Et cela ne me dérange pas du tout.
Pour ne pas rester hors jeu, il s'est improvisé entraîneur. Et tout a commencé dans une petite ruelle, avec un seul ballon. Désormais, c'est sur ce terrain qu'il donne le ton à ses joueurs.
Voilà, cours. Voilà. Eli, allez, travaille, Eli. Maman.
Ça fait plus de 5 ans qu'il coache ce jeune. Son abnégation, faire naître le futur meilleur joueur du monde dans son centre. Et on y croit.
Son handicap ne nous dérange pas. Nous prenons juste ses consignes et nous les respectons. Mon souhait, c'est d'être un grand joueur sorti du centre d'Eclipse.
La vingtaine est un pur autodidacte. Il n'apprend que sur l'Internet et s'appuie sur les orientations de certains entraîneurs nationaux. Pour lui, coacher est thérapeutique.
La plupart des Tchadiens pensent que le handicap est une fatalité. Et c'est la première chose que moi, j'ai combattu. Je n'ai pas honte de mon handicap et ce n'est pas l'apparence qui nous détermine. C'est plutôt l'intelligence et le courage qui peuvent nous aider à réaliser nos rêves.
À travers ses académiciens, Abakar voit son rêve de footballeur brisé par son handicap se concrétiser peu à peu.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montout de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.